Ladies and gentlemen, the President of the United States.
Presidency.
Mr. President.
President.
On dit du président des États-Unis qu'il est l'homme le plus puissant du monde, qu'à lui tout seul, il peut faire chavirer la planète depuis son bureau ovale. Tout l'été, sur France Inter, c'est là que nous vous emmenons, à la Maison-Blanche, à la rencontre de 8 présidents américains face à l'exercice du pouvoir. Vous ferez connaissance avec des hommes brillants, des fades, des vulgaires, de grands stratèges politiques, des indécis. L'histoire a presque oublié certains d'entre eux, d'autres ont encore leur visage sur les billets de banque. Mais ils ont un point commun. En incarnant à un moment l'histoire de leur pays, ils ont aussi bouleversé l'histoire de la fonction présidentielle. Chacun de ces hommes, à sa manière, nous dit aussi qui est l'actuel président des États-Unis, Donald Trump.
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique.
Mr. President.
Fabienne Sintès, sur France Inter.
Aujourd'hui, épisode 1, Andrew Jackson, un self-made man à la tête de l'Amérique. Au printemps 1829, lorsqu'Andrew Jackson s'installe à la Maison-Blanche, les États-Unis sont en pleine modernisation et surtout en pleine expansion. C'est le début de la conquête de l'Ouest, les premières lignes de chemin de fer. En 8 ans et 2 mandats, celui qui a été le fondateur du Parti démocrate modernise les institutions, affirme le rôle du président face au Congrès, mais il est aussi le président qui fera déporter loin de leurs terres des dizaines de milliers d'Indiens. Dans l'histoire des présidents américains, il laisse une trace indélébile et vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Corentin Célin.
Bonjour.
Vous nous accompagnez, Corentin, dans cette traversée américaine à travers les hommes qui ont changé la présidence. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des États-Unis. Je le disais, trace indélébile d'Andrew Jackson dans l'histoire parce que son visage, aujourd'hui encore, est sur les billets de $20.
Oui, absolument. C'est un visage que chaque États-Unien, encore en 2020, voit chaque jour en réglant ses achats, ce qui est peu courant. Il a aussi traversé l'histoire comme un président atypique, qui avait d'abord été un héros de guerre, qui a été un des constructeurs de la nation et du territoire des États-Unis tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, une personnalité, même presque aujourd'hui 2 siècles plus tard, qui est encore très connue des États-Uniens de 2020.
Il y a une citation de celui qui a été son biographe très tôt d'ailleurs, il s'appelle James Parton et il dit « Jackson agissait à la fois comme un dictateur brutal et comme un démocrate subtil, se comportait comme un ignorant sincère ou comme un génie malicieux, prenant les habits de Satan ou ceux d'un saint. » Quel drôle de personnage apparemment Corentin Célin, quel contraste surtout.
Oui, c'est vraiment, c'est une personnalité aux multiples facettes, c'est-à-dire qu'avant même d'accéder à la présidence, il avait fait 1000 professions, de la politique, très jeune, localement, mais aussi du commerce. Il avait été un planteur avec de nombreux esclaves et surtout il a été aussi un très grand militaire, donc une personnalité extrêmement complexe qui faisait qu'on pouvait avoir une appréhension très positive ou très négative de ce même personnage tellement il était complexe.
Et ça nous rappelle déjà un peu quelqu'un quand même, donc on l'aime ou on le déteste en gros.
C'est exactement cela, il est à la fois un personnage que les contemporains adoraient parce que proche du peuple, connu pour avoir été un orphelin très jeune, pour avoir connu une vie très dur lorsqu'il était enfant et qui était adoré par ses soldats parce qu'il partageait leur sort. Et en même temps, on lui reprochait sa brutalité, sa violence, qu'il avait même amené à tuer un homme en duel, ce qui n'était quand même déjà à l'époque pas si commun.
Et est-ce que c'est pour tout ça, au fond, évidemment pas seulement, et on le verra, que le portrait d'Andrew Jackson, aujourd'hui, est dans le bureau de Donald Trump à la Maison-Blanche?
Oui, ce que Trump cherche à récupérer chez Jackson, c'est l'héritage d'un homme qui s'est dressé au nom du peuple et des classes populaires contre les élites traditionnelles de la politique, un homme qui se prétendait ne pas être un professionnel de la politique pour mieux dénoncer les turpitudes des autres politiciens qui étaient ses concurrents. On verra que dans le cas de Jackson, cette prétention à ne pas être un politique était largement exagérée.
Corentin Célin, à tout de suite, on se retrouve au milieu de ce récit. Andrew Jackson, un self-made man à la tête de l'Amérique, un récit documentaire écrit par Adrien Cara, assisté de Rebecca de Nantes, réalisation Fabrice Laigle. Mercredi 4 mars 1829, Washington. Il fait froid. Les bourrasques de vent remontent les rives du fleuve Potomac et balayent les rues de la capitale fédérale des États-Unis. Quand le soleil parvient enfin à se frayer un chemin entre les nuages, il illumine la cime des arbres qui bordent Pennsylvania Avenue. Sur les pavés de cette grande artère qui relie la Maison-Blanche, le siège du pouvoir exécutif, au Capitole, le lieu du débat parlementaire, quelques badauds regardent passer un cortège de calèches tirées par des chevaux en tenue d'apparat. Le convoi fait quelques centaines de mètres encore et s'arrête devant le National Hotel, l'un des établissements les plus chics de la ville. Lorsque l'un des cochers, lui aussi, en grand habit, ouvre la porte de la première voiture, un homme de grande taille apparaît. Il porte un épais et long costume noir, une coiffe de castor sur la tête. Il a autour du cou une sorte de large nœud papillon. Difficile de ne pas remarquer son nez très allongé, son front proéminent. Sous sa toque en peau, son épaisse chevelure grise est coiffée en arrière. Et puis il y a ce regard dont on dit qu'il peut vous transpercer. Après 3 semaines de voyage et plus de 1000 km parcourus du Tennessee jusqu'à Washington, Andrew Jackson est donc chez lui. Tout le long de son périple, il a été félicité, acclamé, ovationné par une foule venue chaque fois plus nombreuse pour le voir, l'entendre ou le toucher. Aujourd'hui, il va prêter serment et devenir le 7e président de l'histoire des États-Unis d'Amérique.
Habitants de Washington, demandez la presse du jour. Demandez la dernière édition du journal Le Providence. À la une, l'arrivée aujourd'hui à Washington d'Andrew Jackson. Ancien général d'armée durant la Seconde Guerre d'indépendance, ancien sénateur de l'État du Tennessee, ancien gouverneur de la Floride, il a remporté en novembre dernier l'élection présidentielle par une victoire écrasante. La cérémonie de son investiture aura lieu à midi sur les marches du Capitole.
Avec 56% des suffrages, Andrew Jackson, 61 ans, débarque donc à Washington dans le costume du vainqueur. Un vainqueur incontesté et incontestable. Mais surtout, aux yeux de ses électeurs, Jackson incarne déjà un symbole, premier homme n'appartenant pas à l'establishment, à entrer à la Maison Blanche. À tout juste quelques heures de sa prise de fonction, le futur président affiche pourtant une mine bien sombre. Cette journée de fête est pour lui une journée de deuil. Un mois après sa victoire en novembre, sa femme, Rachel, est morte dans ses bras, épuisée psychologiquement par les rumeurs malveillantes qui ont circulé sur elle et sur son mariage avec Andrew Jackson. Les assassins de Rachel, Jackson pourrait les pointer du doigt. Pour lui, ce sont John Quincy Adams et Henry Clay, l'ancien président et son ancien ministre des Affaires étrangères. Deux adversaires politiques devenus ses ennemis jurés parce qu'ils lui ont volé la précédente élection présidentielle en 1824. Jackson avait remporté le plus grand nombre de voix et d'États, mais sans majorité absolue. Henry Clay, alors président de la Chambre des représentants, avait fait voter ses alliés au Congrès en faveur de John Quincy Adams. Le passif est tel que pour la première fois dans la jeune histoire américaine, cette campagne électorale n'a été que violence et coup bas. Celui qui ouvre les hostilités, pourtant c'est lui, c'est Andrew Jackson, candidat et fondateur du Parti démocrate, l'ancien propriétaire terrien, ancien général d'armée, héros national aux yeux des Américains, a mené de bout en bout une bataille aux méthodes parfois très contestables. Il a diffusé de fausses rumeurs, des théories complotistes sur son adversaire qu'il accuse sans preuve formelle d'avoir passé un pacte d'arrière-boutique avec Henry Clay. Il a aussi parfois tenté de faire interdire des articles de presse qui lui étaient défavorables, mais en se présentant comme l'homme de la lutte contre les élites de Washington, Andrew Jackson a gagné les faveurs d'une majorité des hommes blancs qui sont les seuls à pouvoir voter. Dans chacun de ses discours, Jackson se revendique issu du peuple. Il entend parler au nom du peuple, il affirme « défendre le peuple ». En réaction, son adversaire a tout fait pour le discréditer. Il l'a accusé d'être un homme violent, autoritaire, irrespectueux de l'autorité et dont l'élection entraînera la mort de la République. Fermez les guillemets. Jackson, en retour, a accusé John Quincy Adams de n'être que le porte-parole des corrompus, des aristocrates sans vergogne et des libertins. Dans un camp comme dans l'autre, les attaques sont permanentes. La campagne de 1828 sert d'ailleurs de maître-étalon pour ce qu'on appelle aujourd'hui encore le mudslinging, le lancer de boue dans les campagnes électorales. Et pour la première fois, la presse sert de tribune et d'arbitre. Dans les colonnes des journaux, les deux candidats se rendent coup pour coup. C'est dans ce contexte délétère que Rachel Jackson se retrouve bien malgré elle, mêlée au coup bas de la campagne. Chose encore rare à l'époque, elle est divorcée. quand elle se met en ménage avec Andrew Jackson. Du moins, le pense-t-elle. Or, il se trouve que son premier mari n'avait pas achevé la procédure de divorce. Jackson et sa femme avaient donc été, sans le savoir, un couple adultère. Et elle, surtout, bigame pendant plus de 3 ans, le temps que la procédure aille enfin à son terme. La campagne Adams déterre ce vieux dossier. Rachel Jackson est traînée dans la boue.
You stole another man's wife.
I stole no man's wife.
We don't want a daughter as president, do we?
No!
And we don't want a prostitute as first lady.
Ce mercredi 4 mars 1829, donc jour d'investiture, il est un peu plus de midi, Andrew Jackson arrive au Capitole de Washington. Face au parterre d'invités, le nouveau président des États-Unis porte à son bras un brassard noir, hommage à sa défunte épouse. À quelques dizaines de mètres de là, la foule grandit. Plus de 10 000 personnes l'observent maintenant depuis les pelouses face au Capitole. Il y a les habitants de la ville, bien sûr, des étudiants venus de l'université de Georgetown, mais aussi des individus dépenaillés. Certains sont sales, sentent mauvais. La petite société de Washington et les politiciens de la côte Est se pincent le nez. Pour eux, Jackson et ses partisans, ce sont des bouseux de l'Ouest. C'est ce que racontera plus tard le sénateur Daniel Webster, qui assistait à cette investiture.
Jamais Washington n'avait connu une telle affluence. Jamais les gens de la campagne n'avaient osé venir ainsi en ville. Il paraît que certaines personnes avaient même parcouru plus de 500 kilomètres pour voir en chair et en os celui qu'elles appelaient encore le général Jackson, en hommage à son passé militaire glorieux. Mais le plus étonnant, c'était sans doute ce qu'on pouvait lire dans le regard de toutes ces personnes. Elles semblaient convaincues que Jackson allait sauver le pays d'un terrifiant danger.
En haut des marches, après avoir prêté serment et prononcé un discours finalement apaisé vis-à-vis de ses adversaires d'hier, Andrew Jackson se tourne vers la foule qui l'acclame. L'orchestre joue, les canons tonnent, le planteur du Tennessee, ancien négociant, ancien soldat, ancien parlementaire, ancien prétendant à la présidentielle, cet homme qui a déjà eu 1000 vies, vient d'inscrire son nom dans l'histoire. Dans les instants qui suivent, le cortège officiel, encadré par une haie d'honneur de vétérans de la guerre révolutionnaire, tente de redescendre Pennsylvania Avenue pour rejoindre la Maison Blanche. Mais le trajet est rendu difficile par une masse de gens qui s'agglutinent autour des chevaux. La tradition veut qu'à Washington, le jour de l'investiture, la Maison Blanche et ses jardins soient ouverts au public. Mais l'affluence record provoque une cohue monumentale et surtout de la casse. Bureaux abîmés, armoires éventrées, vaisselle brisée. D'après ce qu'en diront certains chroniqueurs mondains de Washington, le bâtiment entier fut littéralement ravagé par la populace. Pire, le président Jackson se serait retrouvé plaqué contre un mur, aurait failli être piétiné et aurait même dû être exfiltré en catastrophe vers son hôtel. Horrifiée, la chroniqueuse Margaret Bayard Smith, très hostile à Jackson, témoignera par la suite.
De quelle scène fut-on les témoins ? La majesté du peuple avait disparu, et on vit des nègres, femmes, hommes et enfants se ruant, se battant, s'ébattant. Quelle pitié, quel dommage ! Aucun aménagement prévu, aucun officier de police présent, et la maison entière fut engloutie, assaillie. La populace forçait les entrées, par milliers, des esprits noirs, jaunes et gris, se déversaient dans un flot ininterrompu de boue et de crasse. Pas mal de clients pour le pénitencier.
Dans le parc autour du bâtiment, la bonne société de la capitale refuse tout mélange et tout contact. L'élite bourgeoise observe de loin les partisans de Jackson, ce qu'elle surnomme les gueux. Mais nous y sommes, alors que la nuit tombe sur Washington. Le destin des États-Unis est donc entre les mains de son nouvel homme fort, Andrew Jackson. À peine installé, le président Jackson s'attaque à son premier grand chantier, réformer la bureaucratie fédérale, une sorte d'État dans l'État, gangréné par une corruption endémique. Lors de sa campagne, Jackson avait promis à ses électeurs de mettre fin, avait-il dit, à l'aristocratie monétaire des riches banquiers et négociants des grandes villes de la côte Est. Il s'était aussi engagé à remplacer cette bande de politiciens professionnels et incapables et tous ces fonctionnaires privilégiés. De son passé de marchand et de planteur, Andrew Jackson a gardé le goût d'entreprendre. De son passage dans l'armée, il a pris le goût à l'action. Désormais président, il entend agir sans attendre. Il ordonne donc la destitution et le remplacement de la quasi-totalité des fonctionnaires fédéraux. Le traitement est le même, que l'on soit simple postier ou receveur des douanes, il faut tout renouveler. La première année de son mandat, en 1829, Jackson remplace 911 fonctionnaires fédéraux, soit environ 10% de l'effectif. En anglais, on appelle ça le spoil system. Cette pratique est encore en vigueur aujourd'hui. Changer de président, c'est changer toutes les têtes ou presque autour de la Maison-Blanche. C'est une vraie révolution administrative, elle met Washington sans dessus-dessous et renverse les élites locales. Andrew Jackson vient de donner le ton de son mandat et il n'a pas fini. Autre révolution jacksonienne, les ministres sont mis à l'index. Le président s'entoure d'un petit groupe de conseillers sans titres officiels. C'est ce qu'on appelle alors le « kitchen cabinet », tout simplement parce qu'il se réunit non pas dans la cuisine, mais dans les salons d'Andrew Jackson. Et chacun de ces hommes, à 1000 lieues des grandes familles habituellement affiliées au pouvoir, ne sert que les intérêts du président. Témoin de premier plan de cette politique, à la Hussarde, le philosophe français Alexis de Tocqueville, alors en voyage aux États-Unis, il livrera un jugement très sévère sur Jackson dans son livre « De la démocratie en Amérique ».
Comment nier l'incroyable influence qu'exerce la gloire militaire sur l'esprit du peuple ? Le général Jackson, que les Américains ont choisi pour le placer à leur tête, est un homme d'un caractère violent et d'une capacité moyenne. Rien dans le cours de sa carrière n'avait jamais prouvé qu'il eût les qualités requises pour gouverner un peuple libre. Aussi la majorité des classes éclairées de l'Union lui a toujours été contraire. Qui donc l'a placé sur le siège du président ?
En ce début de 19e siècle, alors qu'Andrew Jackson est occupé à réformer Washington, une autre révolution se prépare cette fois à des centaines de kilomètres. À plus de 800 kilomètres au sud-ouest de Washington, dans l'état de Géorgie. Dans l'obscurité et la moiteur de galeries creusées à la hâte, à flanc de colline, plusieurs milliers d'hommes sont lancés dans une quête effrénée. Chaque jour, ils sont plus nombreux à se précipiter dans les mines et à creuser à la pelle, à la pioche, à la main, parfois jusqu'à l'épuisement, pour trouver la moindre poussière d'une richesse qui fera bientôt l'histoire de l'Amérique, l'or.
Qu'est-ce que tu veux ? Est-ce que tu as de l'argent ? Tiens, va.
Des pépites d'or.
Oui, c'est rare d'en avoir d'aussi grosses.
Elles viennent d'un filon, c'est sûr.
Oh, elles sont magnifiques.
Regarde-moi ça. Je suis sûr que ça vient de ce filon dont on parle sans l'avoir jamais trouvé. Tu sais bien, la bonanza. Allez, allez, réponds. Où tu l'as trouvé ?
Laisse. C'est mon affaire.
Je veux seulement lui demander.
T'as compris ? Dis-moi, où as-tu trouvé ça ? Hein ? Dans la montagne ?
Dis-donc, Jacques, depuis quand tu permets aux Indiens de boire de l'alcool ?
Des pépites d'or grosses comme ça qu'il a trouvées.
C'est la toute première ruée vers l'or, bien avant celle qui rendra San Francisco célèbre des années plus tard. Appâtés par la découverte de gisements, des milliers d'Américains pauvres viennent de tout le pays dès la fin de l'année 1828 pour s'installer illégalement comme chercheurs d'or en Géorgie. Cette installation sauvage se fait évidemment au détriment des propriétaires ancestraux de ces terres, les Indiens Cherokees. En 1828 et 29, l'État de Géorgie a bien tenté de déloger les occupants illégaux. L'idée étant de s'approprier par une loi les terres des Cherokees afin de les redistribuer de façon plus ordonnée et surtout plus légale. Les Cherokees, de leur côté, ont fait appel de cette expropriation devant l'État fédéral qui avait promis, par différents traités, sa protection en échange des premières cessions de terres. Mais après 1829, la donne est bien différente. Les Cherokees sont face à Andrew Jackson. « Depuis la Maison-Blanche, le président Jackson n'est pas peu fier de cet engouement pour les régions du Sud et de l'Ouest. Car Jackson, l'homme du Tennessee, a déjà en tête de grands projets d'expansion pour son pays. Et pour mieux visualiser tout cela, ses conseillers dressent devant lui une grande carte sur laquelle ont été dessinées à la craie noire les frontières de l'Union. En 1829, les États-Unis, c'est un tiers seulement du pays que l'on connaît aujourd'hui. Il y a 12 millions d'habitants, 24 États, tous regroupés sur la côte Est, essentiellement le long de l'océan Atlantique et dans le sillon des Appalaches. Au nord, une barrière de plaines, de grands lacs et de montagnes symbolise la frontière avec les colonies britanniques du Canada. À l'ouest, au-delà du fleuve Mississippi, il existe en revanche d'immenses zones désertiques qui sont toutes à conquérir. Certaines de ces terres appartiennent au tout jeune Mexique, né en 1821. D'autres sont libres de tout droit. Alors oui, le regard d'Andrew Jackson est bien tourné vers l'ouest. Jusqu'au début du 19e siècle, seuls de petits groupes d'explorateurs osaient s'aventurer au-delà des Appalaches et du fleuve Mississippi. S'ajoutaient des trappeurs qui vendaient des fourrures et entretenaient des rapports cordiaux avec les Indiens puisqu'ils commerçaient avec eux. Tout change après 1815, avec l'installation de colons blancs, beaucoup plus nombreux, et l'arrivée de compagnies privées de spéculation sur les terres conquises par l'État fédéral lors des guerres indiennes. Ces compagnies de spéculation immobilière achètent pour une bouchée de pain des hectares qui appartiennent aux Indiens et les revendent à des colons et à des fermiers. Andrew Jackson en est le meilleur exemple. Dans sa vie d'avant, alors qu'il était l'un des généraux de l'armée américaine, les armes à la main, il oblige, fin 1816, les Cherokees à céder contre un dédommagement dérisoire tout le sud de la vallée du Tennessee, l'actuel Alabama. Deux ans plus tard, quand l'État fédéral met en vente ces terres nouvellement acquises, Jackson, rendu à la vie civile, achète des milliers d'hectares et devient riche. Ces empiétements sur les terres des Indiens par des colons toujours plus nombreux se multiplient dans les États du Sud. Et quand Jackson devient président, et alors que les Cherokees réclament la protection de l'État fédéral, sa vision de la question indienne n'a pas changé. Le président américain donne les grandes lignes de sa politique d'expansion du territoire lors d'un discours au Congrès le 6 décembre 1830. Son but est bien d'expulser les Indiens de leurs terres et de le faire par la force s'ils refusent d'aller s'installer dans les réserves prévues pour eux à l'ouest du Mississippi.
L'humanité a souvent pleuré sur le sort des aborigènes de ce pays et la philanthropie s'est longtemps employée à trouver des moyens de l'éviter, mais ses progrès n'ont jamais été arrêtés un seul instant et une par une, de nombreuses tribus puissantes ont disparu de la terre. Il n'y a rien à regretter dans tout cela, si l'on considère l'intérêt général de l'humanité dans son ensemble. Quel homme de bien préférerait un pays couvert de forêts et peuplé de quelques milliers de sauvages à notre vaste république parsemée de villes, de bourgs et de fermes prospères, embellie par tous les perfectionnements que l'art peut concevoir ou que l'industrie peut exécuter, occupée par plus de 12 millions de personnes heureuses et remplie de tous les bienfaits de la liberté, de la civilisation et de la religion.
Ce discours d'Andrew Jackson, on le retrouve presque tel quel dans le Indian Removal Act, la loi qui organise l'expropriation consentie des Indiens vers les réserves de l'Ouest, mais ouvre aussi la voie à une déportation de masse s'ils refusaient de se soumettre. Au moment de son vote au Congrès, en mai 1830, les chefs indiens tentent de rallier à leur cause les Blancs de la côte Est. Ils y parviennent parfois. Un sénateur s'exclame « Mais qui pourrait regarder un Indien dans les yeux et lui dire « Depuis plus de 40 ans, on vous a fait des promesses solennelles et aujourd'hui on s'apprête à les violer en vous prenant vos terres ». Les discussions sont animées, le vote de la loi est serré à la Chambre des représentants, mais le bloc unanime des sudistes au Sénat assure son passage. Ce qui n'est pas pour déplaire à Andrew Jackson, qui déteste ses sénateurs progressistes du Nord et les combats depuis son arrivée au pouvoir. Ratifié et voté par le Congrès, le Indian Removal Act est la signature de la politique indienne de Jackson. Et il annonce l'une des tragédies à venir les plus marquantes de l'histoire américaine. Parmi les opposants acharnés qui, jusqu'au dernier moment, tenteront de faire reculer les parlementaires, il y a un homme dont l'histoire a retenu le nom, l'un des anciens compagnons d'armes d'Andrew Jackson, un trappeur connu dans tout le pays pour ses exploits et ses aventures, Davy Crockett. Le voici devant le Congrès, tenter de convaincre les parlementaires de leur terrible erreur.
Je cède la place aux députés du Tennessee.
Monsieur le Président, messieurs les membres du Congrès des États-Unis d'Amérique, si je ne m'abuse, on doit voter une loi sur les Indiens maintenant. Mais avant le vote définitif, j'aimerais vous rappeler quelque chose. Toutes les promesses faites aux Indiens et consignées dans les traités sont aussi sacrées que notre parole. Si vous votez cette loi, nos colons vont sûrement en pâtir. J'oserais affirmer que vous ferez le jeu des spéculateurs de terrain qui ont tout fait pour faire passer ce texte. Songez-y, quels sont ces gens sans aveu? Après tout, c'est peut-être bien le président lui-même qui se sert de vous à des fins personnelles. Rassurez-vous, je connais le général Jackson depuis pas mal de temps. Je suis persuadé que seul le bien des États-Unis est son guide. Ce sera bien notre faute, messieurs, si par malheur cette loi est votée. Si vraiment nous avions en nous-mêmes ce que nos amis et nos voisins ont cru voir en vous et moi quand ils nous ont élus, une pareille loi, nul député, messieurs, n'aurait pu songer à la discuter, et encore moins à la voter.
En 1832, une décision de la Cour suprême rend finalement la souveraineté de leurs terres aux tribus indiennes. Mais la machine Jackson est lancée et c'est trop tard pour les Cherokees ou pour les Creeks condamnés à une déportation forcée. Entre 1836 et 1839, aux frontières du Tennessee, de la Caroline du Sud et de la Géorgie, dans un ballet sinistre, les soldats fédéraux et les milices armées regroupent les familles indiennes, isolent les chefs et puis emmènent les populations dans des camps avant de les déporter vers l'ouest. Cette piste des larmes qui s'étale sur plusieurs années conduit au déplacement final de plus de 60 000 Indiens. Un quart d'entre eux mourront de faim, de froid ou d'épidémie pendant le voyage. Ce sont ces visages qui resteront à jamais la part d'ombre du premier mandat d'Andrew Jackson à la présidence des États-Unis. Corentin Célin, on laisse le récit là juste un instant, on va bien sûr y revenir. Je voudrais qu'on s'arrête pour comprendre. Cet épisode indien, c'est le marqueur d'une présidence. Pas d'hésitation, pas de compassion, pas de pitié de la part de Jackson.
Non, alors aucune pitié finale, dira-t-on, même si Jackson veillait toujours à habiller sa politique indienne d'une compassion individuelle en rappelant qu'il était l'ami des Indiens, qu'il les connaissait bien. N'avait-il pas lui-même élevé un enfant indien orphelin? Avec l'Indian Removal Act, même si la loi lui donnait les moyens d'organiser une expropriation consentie en allouant des fonds pour dédommager les Indiens, il mettait en place une logique que la piste des larmes prouvait fatale pour les Indiens, puisque évidemment une grande majorité, en particulier des Cherokees, refusa de quitter ces terres et dut être contrainte par la force, aboutissant à cette déportation de masse.
Ce qu'il nous dit en creux, Andrew Jackson, et ça nous ramène peut-être aussi à une Amérique contemporaine, c'est que il n'y a qu'une Amérique, l'Amérique doit être blanche, et c'est au fond la seule qui compte.
Oui, c'est très marquant dans la présidence d'Andrew Jackson. Il critiquait en particulier les Indiens pour être incapables de s'adapter à la civilisation industrielle qui commençait à s'ébranler aux États-Unis. Civilisation blanche, évidemment, pour Jackson, civilisation industrielle et pour laquelle, il le répétait sans cesse, les Indiens n'étaient pas préparés et même, il osait parfois dire qu'elle ferait du mal aux Indiens. C'est pour cela qu'il fallait les envoyer dans ces réserves, plus à l'ouest, où ils pourraient être, soi-disant, abrités, en quelque sorte, de la civilisation industrielle.
Et est-ce que c'est pour ça, Corentin Célin, que l'héritage de Jackson, au fond, est si lourd à porter pour les démocrates, alors que c'est lui, on l'a entendu, qui a créé le Parti démocrate? Est-ce que c'est pour ça qu'au fond, ils l'ont abandonné à Donald Trump?
Oui, c'est absolument pour cela. Jackson est aujourd'hui infréquentable pour un démocrate de 2020. On peut rappeler par exemple que longtemps les démocrates ont eu l'habitude, en particulier en Iowa, lors des campagnes présidentielles, d'organiser des Jefferson Jackson Dinner, des dîners, des banquets du parti. Et ils les ont débaptisés dans les années 2010 parce que Jackson incarne maintenant effectivement la défense d'États-Unis exclusivement blancs, construit contre les Indiens et aussi les Afro-Américains.
Et alors, pour l'anecdote, parce que 2010, c'est quand même très récent, quand on y songe, pour se débarrasser du nom de Jackson.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a encore 25 ans, par exemple, lorsque Bill Clinton est devenu président en 1992-93, Jackson pouvait encore être cité, revendiqué comme une des références des démocrates sudistes. Mais aujourd'hui, c'est totalement impensable, car les démocrates sont devenus le parti du multiculturalisme, du respect de la diversité des identités, et Jackson incarne strictement l'inverse. Et c'est bien pour cela qu'aujourd'hui, c'est une figure politique récupérée d'abord par le nationalisme blanc qu'incarne Donald Trump.
Et alors, pour l'anecdote, mais c'est quand même très parlant, il a été question de changer le visage des billets de $20 et c'est Donald Trump qui s'y est opposé.
Oui, absolument. La mesure est reportée pour l'instant puisque Barack Obama avait lancé le changement de visage et avait arrêté son choix sur Harriet Tubman, la grande pionnière combattante du droit des Afro-Américains dans la lutte contre l'esclavage. Et Donald Trump a reporté ce remplacement de Jackson par Tubman, ce qui dénote effectivement une certaine vision de l'histoire de l'Amérique.
On va reprendre bien sûr le fil de ce récit avec vous, Corentin Célin. Il nous réserve encore quelques surprises, Andrew Jackson.
I am a poor wayfarer and stranger, traveling through I go. I'm going home to see my mother. I'm going home no more to roam. I am just going over Jordan. I am just
Presidents, ces présidents qui racontent l'Amérique. Fabienne Saintès sur France Inter.
6 juin 1833, gare de Baltimore, État du Maryland. Nous sommes à 50 km au nord-est de Washington sur la côte atlantique. Dans un panache de fumée noire et avec ce bruit strident si caractéristique, une locomotive à vapeur s'arrête au bord du quai. À son bord, un passager pas comme les autres, Andrew Jackson. Ce voyage est le premier voyage d'un président américain à bord d'un train. Et en ce milieu de 19e siècle, le train à vapeur, c'est une révolution. Il permet d'envisager des perspectives de développement inédites dans un territoire aussi grand. Réélu un an plus tôt, avec une avance confortable, Andrew Jackson est conscient de cet enjeu. Mais c'est aussi, presque à ce moment-là, entre ces deux mandats, qu'il aura à gérer une grave crise politique. À l'origine, une simple querelle autour des droits de douane entre les États. Les États agricoles du Sud, emmenés par la Caroline du Sud, qui sont très libre-échangistes, veulent qu'on les laisse commercer sans contrainte. Les États industriels du Nord, en revanche, réclament des droits de douane élevés pour protéger leur jeune industrie de la concurrence britannique. En 1828, le Congrès avait voté un nouveau tarif douanier très élevé, dont beaucoup, en Caroline du Sud, ne veulent pas entendre parler, y compris le vice-président John Calhoun. Il est né, il est élu de Caroline du Sud. Il veut déclarer cette loi du Congrès nulle et s'opposer à son application. C'est le début de ce qu'on appelle la crise de la nullification, qui pendant 4 ans paralysera une partie de la vie économique américaine. Andrew Jackson doit trancher, lui qui a choisi Calhoun comme colistier en 1828, lui, l'homme du Tennessee, donc du Sud, qui a toujours cultivé sa défiance envers l'État fédéral. Il vire à 180 degrés, il endosse le costume du président défenseur de l'Union, il entend faire entrer la Caroline dans le rang. Dès 1830, lors d'un toast resté célèbre pour l'anniversaire de la naissance de Thomas Jefferson, Jackson s'écrie « Pour l'Union, qu'elle soit préservée. » Jackson n'est pas homme à faire dans le détail et la diplomatie subtile. Il a été militaire, il aime la manière forte. Alors que la Caroline du Sud refuse toujours un second tarif de compromis voté par le Congrès, il menace d'envoyer l'armée fédérale à Charleston, capitale de Caroline du Sud, et il se débarrasse au passage de John Calhoun, remplacé par Van Buren sur le ticket présidentiel à l'automne 1832. Il faudra attendre un nouveau vote du Congrès en 1833 et une baisse des tarifs douaniers pour que la Caroline du Sud s'apaise et que les choses se calment. Mais sur le fond, le problème n'est pas réglé. Le prophétique Andrew Jackson écrira en 1833 « Les droits de douane ne sont qu'un prétexte pour les États du Sud. Leur véritable objectif est la désunion et l'idée d'une confédération du Sud. Le prochain prétexte sera la question des Noirs ou celle de l'esclavage. » Désormais, Andrew Jackson est un homme installé à la Maison-Blanche. Il a imposé son style, parfois brutal. Il a surtout imposé son indépendance. Face au Congrès, il l'a affronté à maintes reprises et ne compte pas s'arrêter là. 12 fois durant son mandat, il oppose son veto à des lois pourtant votées à une large majorité. Il use, il abuse de ce droit présidentiel plus que ses 6 prédécesseurs réunis. Dans les rangs de l'opposition, on dénonce une action antidémocratique, on l'accuse de clientélisme. Dans les journaux, Jackson est caricaturé, affublé d'un col en hermine, d'une couronne, d'un sceptre dans la main droite, du droit de veto dans la main gauche, à ses pieds la Constitution et les armoiries de la Pennsylvanie qu'il piétine avec ce titre, le roi Andrew. Andrew Jackson n'en a que faire, il a surtout encore autre chose en tête. Fort de sa réélection, il veut s'attaquer à ce qu'il considère comme une monstruosité qui sert exclusivement les intérêts de l'élite de la côte Est, la Banque des États-Unis. L'idée d'une banque fédérale est une vieille idée, déjà expérimentée en 1791 et puis supprimée. En 1816, nouvelle tentative, c'est cette deuxième mouture, incarnation, dit Jackson, d'un interventionnisme fédéral dans les finances de l'État que le président entend détricoter.
Beaucoup de nos hommes riches ne se sont pas contentés d'une protection et d'avantages égaux, mais ils nous ont supplié de les rendre plus riches par une loi du Congrès. En essayant de satisfaire leurs désirs, nous avons, dans les résultats de notre législation, dressé région contre région, intérêt contre intérêt et homme contre homme, dans une agitation craintive qui menace d'ébranler les fondements de notre union. Il est temps de faire une pause dans notre carrière pour revoir nos principes et, si possible, faire revivre ce patriotisme dévoué et cet esprit de compromis qui ont distingué les sages de la Révolution et les pères de notre Union.
En guise d'inauguration de son deuxième mandat, Andrew Jackson retire donc les fonds fédéraux de la banque pour les distribuer à des banques locales qu'il choisit soigneusement en fonction de ses propres intérêts et de ceux de ses partisans. Le gouverneur de la banque, furieux, qualifie la position présidentielle de manifeste anarchique comme Marat et Robespierre auraient pu en offrir à la foule. Dans la presse, l'opposition s'étrangle. Comment, demandent certains députés, comment financer les travaux des chemins de fer sans une banque nationale? Comment réguler l'activité économique entre les États? Peine perdue, la banque est démantelée. Il faudra attendre 1913 pour que soit créée cette fois définitivement la Réserve fédérale des États-Unis. Le 30 janvier 1835, Andrew Jackson assiste aux funérailles d'un représentant de la Caroline du Sud au Capitole. À la fin de la cérémonie, le président est entouré de son secrétaire particulier et de plusieurs de ses conseillers. C'est alors qu'un jeune homme surgit de nulle part, sort un pistolet et tire un premier coup dans le dos de Jackson. Il rate sa cible, il tente de tirer une nouvelle fois, mais son pistolet s'enraye. La légende raconte que Jackson, fou de colère, se serait précipité sur son agresseur et l'aurait frappé de plusieurs coups de canne sur la tête. Dans la foule se trouvait Davy Crockett, alors député à la Chambre des représentants, et c'est lui qui serait intervenu pour que le jeune homme se rende. En réalité, c'est un déséquilibré, il s'appelle Richard Lawrence, il aurait agi, convaincu d'être le roi d'Angleterre, pensant que la suppression de la Banque fédérale par Jackson le privait du remboursement de sommes qui lui étaient dues. Bon, si l'épisode se termine bien, ce que l'on retient, c'est que pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, un président est victime d'une tentative d'assassinat. Et pour la première fois aussi, on réalise toute la vulnérabilité d'un homme censé gouverner la nation qui ne dispose pas même de soldats ni d'officiers en charge de sa sécurité. Mars 1837. Andrew Jackson a 69 ans, il a perdu de sa superbe. Le président, il est fatigué, épuisé même par ses deux mandats. C'est par le train qu'il repart pour sa résidence de Nashville dans le Tennessee. Avant de partir, il lance aux journalistes venus recueillir ses dernières paroles. « J'ai servi mon pays et je rentre désormais chez moi avec à peine quelques dollars en poche. » Andrew Jackson, un self-made man à la tête de l'Amérique. On y revient avec Corentin Célin dans un instant.
Fabienne Saintès, Presidents.
Andrew Jackson, un self-made man à la tête de l'Amérique. Corentin Célin, ce sera notre exercice tout au long de ces portraits. Sur l'échelle de Trump qui va de 0 à 10, 0 étant très éloigné du président actuel et 10 étant copie conforme, où le situez-vous, Andrew Jackson ?
On pourrait commencer par répondre que Donald Trump, lui, voudrait que ce soit 10 sur 10.
Okay.
On pourra mettre pour Jackson un 7 sur 10 pour deux raisons. D'une part, la volonté commune d'incarner un peuple, une volonté populaire contre des élites supposé dévoyé et que l'on accuse d'être dévoyé. Ça, effectivement, c'est un point commun dans la conquête du pouvoir. D'autre part, autre point commun, une violence verbale dans l'exercice de la politique et dans l'exercice du pouvoir qui ne sont pas, sans rappeler Donald Trump, avec cette dimension nationaliste extrêmement marquée également.
Donc nationaliste, agressif, vous l'avez dit, il aime le combat militaire, il aime le pouvoir solitaire aussi. C'est peut-être également une similitude dans les traits de caractère.
Oui, il aime le pouvoir solitaire et on note aussi, ça c'est un autre point commun, un grand décalage entre les promesses, c'est-à-dire que Jackson fait une campagne en 1828 de le peuple contre les élites, du changement radical au profit du peuple qui aurait été floué, à qui on aurait pris le pouvoir démocratique. Mais on peut noter qu'en même temps, Jackson, et ça peut rappeler aussi Trump, il s'empresse de mettre à la tête de l'État ses amis, ses copains, y compris ses copains de régiment, entre guillemets, puisque ancien grand militaire, il est connu par exemple que dans le poste de fonctionnaire le plus rémunérateur, qui était à l'époque celui de collecteur des droits de douane du port de New York, il a installé un ami à lui qui s'est littéralement enrichi, engraissé, et qui devient millionnaire après avoir reçu ce poste. Et ça rejoint aussi cette critique qu'on a pu faire à Donald Trump, au-delà des promesses de réforme, de drain the swamp, hein, mm-hmm. nettoyer le marécage. Ouais. Ces promesses de n'ont pas été tenues. On a vu aussi des affaires de conflits d'intérêts, de copinage très nombreuses durant l'administration de Trump.
Il y a une sorte de détestation, de méfiance, en tout cas chez les deux personnages aussi peut-être, de tous les contre-pouvoirs, en fait.
Ah, ça c'est absolument, effectivement, dans la ressemblance, c'est absolu. On a rappelé dans le récit combien Andrew Jackson avait construit la déportation des Indiens de leurs terres ancestrales. Il faut rappeler qu'il l'a fait contre un arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Worcester contre la Géorgie de 1832. Et cet arrêt qui rendait la souveraineté de leurs terres aux tribus indiennes de Géorgie, Jackson l'aurait accueilli par ces mots. Si le président Marshall de la Cour suprême a rendu cet arrêt, eh bien, il a qu'à le faire appliquer. Sous-entendu, la Cour suprême dit ce qu'elle veut et moi je fais ce que j'entends. Et effectivement, on retrouve cette dimension d'un Trump qui n'en fait qu'à sa tête avec les contre-pouvoirs, qu'ils soient parlementaires ou judiciaires.
Alors, tout ça et ces ressemblances, mais aussi le fait que Trump se soit attaché à ce personnage d'Andrew Jackson, en fait, là aussi, c'est quelque chose, par ailleurs, qui est très travaillé. Il paraît que c'est Steve Bannon, celui qui a forgé la campagne de Trump, qui a théorisé même sur quelle cible il fallait aller pour gagner cette présidentielle, etc. C'est lui qui a mis Jackson, au fond, dans la tête de Donald Trump. C'est même lui qui lui a conseillé de jouer ce rôle-là, en fait.
Bien sûr, parce que Jackson incarnait en 1828 un soulèvement populaire, et on l'a vu dans le récit, le jour de son investiture l'a signalé avec cette véritable invasion vécue par les Washingtoniens, par des classes populaires venues de la frontière. Et Bannon, qui connaît son histoire des États-Unis, même s'il l'interprète évidemment par son prisme idéologique, a voulu faire de Trump le champion de la nation blanche, de celle qui, selon lui et selon eux, a construit les États-Unis et qui n'hésite pas à recourir à une certaine forme de virilisme. Hein. Ça aussi, c'est commun à Trump de masculinité très forte pour incarner cette nation blanche. Sauf qu'évidemment, ça veut dire aussi, et c'est ce qui a été reproché à Trump, quand on récupère la figure de Jackson, on récupère aussi la figure d'un homme qui était esclavagiste, raciste, et qui a contribué à la déportation des Indiens.
Ce qui n'a pas empêché donc Donald Trump, surtout au début de sa présidence d'ailleurs, il y a pas mal d'extraits qui datent de 2017, de rendre des hommages constants à Andrew Jackson. On va écouter l'un de ces hommages, c'était le 15 mars 2017.
In my address to Congress, I look forward to 9 years.
Lors de mon allocution au Congrès, j'ai évoqué le fait que dans 9 ans serait célébré le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Aujourd'hui, j'attire l'attention sur un autre anniversaire, le 250e anniversaire du très grand Andrew Jackson.
Andrew Jackson. And he loved Tennessee.
Il aimait le Tennessee, et moi aussi, pour tout vous dire.
Ce que ça veut dire quand on entend cet extrait, Corentin Célin, c'est que non seulement il en use, il en abuse, il l'utilise, mais il sait exactement ce qu'il fait, il sait exactement à qui il parle dans ces moments-là. Et est-ce que les Blancs, au fond, qu'il a en face de lui au moment de ses discours, savent aussi exactement d'où vient cette référence que Donald Trump est en train de leur offrir, en quelque sorte?
Oui, parce que Andrew Jackson reste quand même dans un 19e siècle qui, il est vrai, est souvent oublié dans l'enseignement scolaire primaire aux États-Unis, mais Andrew Jackson est une des figures les mieux connues, sinon la figure la mieux connue du 19e siècle, des présidents du 19e siècle, et donc c'est une référence tout à fait audible pour les partisans de Trump. Et quand il encense Andrew Jackson, il sait bien qu'il encense une figure populiste au sens qui s'est appuyé sur une revendication démocratique populaire contre les élites, comme lui, comme un homme qui a défendu des États-Unis blancs contre les Indiens, contre on pourra en reparler également, les Mexicains, qui n'a pas hésité à réprimer extrêmement violemment des révoltes d'esclaves comme celle de Ned Turner en 1831. Donc, on a vraiment une référence qui est tout à fait maîtrisée par Donald Trump et qui s'adresse à son électorat blanc populaire qu'il a porté au pouvoir en 2016.
Et donc, allez-y, donc vous le disiez, les Indiens, les Noirs et aussi les Mexicains, en gros, effectivement, tout ce qui n'est pas blanc-blanc.
Oui, parce que, alors une caractéristique d'Andrew Jackson par rapport aux autres personnages que l'on verra, c'est qu'il a continué à avoir une très grande influence après sa présidence, hein, puisqu'il a vu trois autres présidences, et après sa présidence, il s'est surtout manifesté par sa volonté d'annexer le Texas, qui était devenu indépendant en 1836, d'annexer le Texas, évidemment, au détriment, même s'il était déjà indépendant, du Mexique. Et donc, on voit bien chez lui cette volonté de construire la nation états-unienne au détriment de tout ce qui n'est pas descendant de colons blancs européens. Mmh. Et ça, c'est vraiment une figure marquante chez Jackson.
Ça veut dire qu'il reste populaire, y compris après sa présidence. Est-ce qu'il reste présent, cet homme ?
Alors, il reste, ce qui n'est pas commun, on le verra aussi, il reste à la fois présent et populaire. Tout d'abord parce que ses Van Buren, on en a parlé durant le récit, sont plus fidèles conseillers et vice-présidents qui lui succèdent. Donc, il y a une forme de continuité. Mmh. Il est très présent dans la présidence Van Buren. Il est ensuite aussi très présent, paradoxalement, lors de la présidence Tyler, qui est une présidence surprise, puisque c'était pas l'homme qui avait été élu, c'était un vice-président qui a accédé rapidement au pouvoir après la mort de l'élu. Et c'est lui qui a porté en quelque sorte sur les fonts baptismaux en 1844 le président Polk, à qui il avait d'ailleurs présenté sa femme.
Donc il est faiseur de roi en fait, en quelque sorte.
Ah oui, il reste très actif sur la scène politique, même si sa santé se détériore. Et il arrive à faire continuer, à passer ses idées. D'ailleurs, on estime que au moment où il meurt en 1845 commence ce qu'on appelle la théorie de la destinée manifeste, c'est-à-dire cette théorie selon laquelle la nation états-unienne et les descendants de colons blancs européens auraient une destinée divine, c'est-à-dire conquérir l'ensemble du territoire nord-américain, si on simplifie. Et Jackson, c'est un élément central de la théorie jacksonienne, et donc en quelque sorte c'est son héritage ultime.
Il y a une dernière chose, Corentin Célin, que je voudrais voir avec vous, parce que ça m'intrigue au fond depuis le début de ce récit, depuis qu'on se parle, c'est ce fameux billet de $20 sur lequel le portrait de Jackson est toujours. Le billet de $20, c'est aussi la raison pour laquelle George Floyd est mort à Minneapolis. Ce qui laisse un peu songeur, en fait, de vous à moi.
Oui, ça laisse très songeur, puisque effectivement, on sait par ailleurs, et on l'a rappelé durant l'émission, que Jackson devait être relégué sur le revers du billet, et que ce billet devait être désormais incarné par Harriet Tubman, une grande héroïne afro-américaine. Et Donald Trump lui-même a pris la décision de ne pas le faire, de reporter ce changement. Et il est effectivement très saisissant que George Floyd ait été tué par la police à Minneapolis pour un billet de $20 qui porte la figure, qu'on le veuille ou pas, d'un homme connu pour son racisme au sens strict et sa conviction que la civilisation indienne ou le peuple afro-américain étaient des entre guillemets races inférieures. Et ça, ça ne peut que effectivement saisir un observateur en 2020.
Merci Corentin Célin. Andrew Jackson, un self-made man à la tête de la Maison Blanche. Un épisode à réécouter en podcast et sur le site de France Inter.
Et dans le cadre du Festival Imaginaire de France Inter, dans quelques minutes, 40 ans de rap avec Eric et Quentin, on va parler du crew chez les rappeurs.